bonsoir. Vous écoutez bien Radio Canus en 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info de ce lundi 3 février 2014 avec Jean-Pierre Michel dans les studios et Robert en duplex pour aborder l'actualité internationale, mais peut-être une petite info en forme de canette, Robert.
Oui, pour signaler que le Grand Prix de la Honte est à décerner au festival BD d'Angoulême. Alors non pas à travers les gens qui ont été récompensés, mais qui concerne les organisateurs eux-mêmes, puisque le festival BD d'Angoulême est parrainé et partenarié avec SodaStream. Alors SodaStream, c'est cette société israélienne qui fait de la boisson gazeuse et dont l'implantation est en territoire occupé en Cisjordanie. Et donc qui est d'ailleurs fait partie des sociétés israéliennes auxquelles le mouvement de défense des Palestiniens appelle à boycotter, parmi presque en tête de liste, parce que c'est vraiment la société installée en Cisjordanie. Bien, comment peut-il se faire que les gens du festival d'Angoulême de la BD pactise avec ces gens qui sont en infraction par rapport donc à la aux décisions internationales. C'est d'autant plus étonnant cette année que c'est Willem, le dessinateur qu'on connaît bien, un dessinateur féroce, iconoclaste, tout, qu'on voit souvent, qu'on a vu longtemps d'abord dans Libération, qui présidait cette année le festival de la bande dessinée d'Angoulême. Alors comment a-t-il pu, lui et tous les organisateurs, laisser faire? Voilà, question.
Question. Première question, deuxième question, deuxième sujet plutôt. Dans l'actualité internationale, cette fois, si on peut dire, sur quoi ouvrir? On n'a que un petit peu l'embarras du choix aussi entre la Syrie, l'Afghanistan, la Thaïlande. Michel, tu as une préférence de sujet?
Non, je veux vous suivre.
Je nous suis. Eh bien, allons-y pour la Thaïlande, donc, où l'on votait. On pourrait se réjouir que des élections arrivent à stabiliser la situation. Ben, pas du tout, parce que les opposants à ce vote, d'une part, ont appelé au boycott, et d'autre part, ont boycotté activement en interdisant l'accès à, par exemple, un dixième des bureaux de vote à Bangkok et complètement dans certaines provinces du Sud qui n'ont pas pu élire de députés. Comme il n'y a pas le nombre de députés suffisant pour proclamer l'élection close, on va revoter le 23 février. Donc, avec toujours cette première ministre contestée qui espérait, avec cette mise en place d'élections, calmer l'agitation de l'opposition. Mais finalement, ça ne marche pas. Donc 46 millions de votants quand même dans ce pays. Et ben, la situation reste extrêmement tendue entre les fameuses chemises jaunes et les chemises rouges, ceux qui s'opposent et ceux qui veulent le maintien au pouvoir de l'équipe actuelle.
Un cas classique, là, effectivement, de la sœur de Taksim, on va l'appeler, hein, Shinawatra, de l'ancien Premier ministre qui est obligé de prendre ses clics et ses claques et de se réfugier dans le Golfe. Aujourd'hui, il réside officiellement à Dubaï. On accuse le gouvernement de la Première ministre Shinawatra donc d'être totalement corrompu. Donc on accuse les chemises jaunes, donc le Parti démocrate, ceux qui maintiennent la pression dans les rues, mais avant tout, ça correspond à aussi une césure assez forte entre le milieu citadin et le milieu rural. Hein. Disons que la population rurale soutient massivement la Première ministre pour des raisons toutes simples, c'est que du temps où son frère était au pouvoir, entre 2001 et 2000, 6, et bien il y a eu un programme justement de stabilisation des prix et qui a vu pour les populations rurales les plus humbles, les plus pauvres, effectivement leur niveau de vie sensiblement augmenté. Donc le Parti démocrate, qui représente plus la bourgeoisie donc citadine, hein, donc dénonce ce gouvernement donc qui est corrompu. Mais enfin, si on parle de corruption en Thaïlande, on sait bien effectivement que c'est pas l'affaire d'une ou deux personnes, c'est un système qui est instauré et qui est avalisé par tous les partis en place. Donc là, on a le cas classique, effectivement, de deux forces politiques en opposition. Celle des jaunes qui a refusé donc de participer à ces élections, et pour cause, elle savait que ces élections étaient perdues pour elle, puisque les dernières enquêtes d'opinion donnaient quand même le vainqueur, le parti de la première ministre sortante, et veulent une démission donc de Shinawatra. Donc on voit bien l'impasse, hein, qui est en train de se dessiner, parce que comme tu l'évoquais, donc les chemises jaunes ont bloqué les bureaux de vote. Ils veulent le départ du gouvernement, ils ne veulent pas participer aux élections, ils n'ont pas participé aux élections législatives, et ils attendent que les instances judiciaires donc fassent ce travail-là, donc de destituer Shinawatra pour officiellement corruption, ou attendre des militaires qu'ils sortent dans la rue et qu'ils installent l'état d'urgence. Donc on est une situation 0-0 balle au centre, et si j'ose dire, et on voit pas comment les choses vont se décompter, d'autant plus que là, sur ce dossier, hein, contrairement à d'autres, hein, on le verra, la communauté dite internationale reste sur ses réserves.
Voilà un sujet donc sur lequel il faudra revenir. La Syrie, donc une semaine de discussion sans accord obtenu. Pendant ce temps-là, comme les observateurs ont pu le faire, il y a eu 2000 morts pendant la semaine. Les affaires continuent pendant les négociations, des négociations qui n'ont pas débouché sur grand-chose. Alors, on apprend ce soir qu'il y a un désaveu par Al-Qaïda des groupes d'action de l'État islamique en Iran, et je ne sais plus exactement le nom du groupe, un désaveu de son action, de ce groupe qui, peut-être à l'instigation de l'Iran pour le coup, était très actif et violemment actif en Irak. Alors comment faut-il interpréter politiquement ce désaveu d'Al-Qaïda, qui en général n'a pas l'habitude de désavouer ses combattants? Il semblerait que là, il y a des divergences politiques qui se traduisent sur le terrain par ce désaccord des opposants dans la guerre de Syrie.
Je n'ai pas trop suivi le dossier, je ne pourrais pas vraiment en parler
de
cette information-là, il faudrait vraiment que je l'ai sous les yeux. Mm-hmm. Ce qu'on peut dire, surtout sur Al-Qaïda, c'est que ça reste une nébuleuse, hein. Ce n'est pas un système pyramidal. Au jour d'aujourd'hui, personne n'est à même de nous dire, effectivement, nous avons parlé de Ben Laden n'est plus là, hein, n'est plus de chez nous.
Ah, le Mullah Omar est toujours là.
Le Mullah Omar, oui, effectivement, est perdu dans ces montagnes afghanes, mais je veux dire, c'est Zarqawi, c'est qui est à la tête de cette mouvance, on ne sait plus. Enfin, on a tellement dit de vérité contre vérité qu'il est difficile aujourd'hui d'établir par des faits vraiment la structure même donc de ce mouvement qu'on appelle Al-Qaïda, donc le réseau. Ce qu'on sait, hein, c'est que les oppositions au gouvernement de Bachar al-Assad sont profondément divisées, et on a avait déjà souligné la semaine dernière, à savoir que les opposants bon teint, bon chic, bon genre, ceux qui siègent à Genève, n'ont pas du tout donc l'approbation de la plupart des opposants qui sont sur le terrain, qui sont beaucoup plus durs, si je veux dire, qui ont une ligne beaucoup plus dure que qu'eux, et donc on voit bien donc là déjà le souci, le problème. Hein. Donc il n'y a aucune espèce d'opposition unifiée, ça on le savait, mais elle est de plus en plus morcelée, elle est de plus en plus, si j'ose dire, fanatisée, et elle tourne à l'obsession, au clivage chiite, sunnite. On ne parle plus là de Syrie, hein, de l'intérêt du peuple syrien. On parle effectivement d'une forme d'union des sunnites contre le danger chiite, et pareillement de l'autre côté, hein, puisque on est de plus en plus donc dans cette configuration là.
Voilà, Robert, tu avais quelque chose à dire sur
avec une autre composante qui est relativement importante, ne serait-ce que par son histoire, effectivement, sont les Druzes, je crois, qui sont également très présents dans le coin et qui sont organisés aussi, je crois.
Entre autres, tu parles pour la Syrie, les Druzes sont présents sur le plateau du Golan, en Syrie, au Liban, en Israël. Les Druzes ont eu des positions plus que divergentes, hein, ces dernières décennies. Donc là aussi, la dernière en date, c'est qu'ils voudraient se maintenir un peu à l'écart, voyant au départ. Ils étaient pour donc une opposition au gouvernement de Bachar al-Assad, voyant que ça tournait à une forme d'insurrection salafiste, où on met en avant donc le sunnisme, eux qui sont considérés comme une secte, hein, donc comme impie, hein, par les sunnites, ils sont mis un peu en retrait, hein, donc aujourd'hui, voilà, on a cette configuration où les chrétiens essayent d'être neutres. Ils y ont beaucoup de mal, donc ils sont plus proches du régime que de l'opposition, mais ils sont aussi divisés. Mais ils essayent, dans leur majorité, d'être neutres. Les Druzes, qui ont cette tradition donc tribale et guerrière, cherchent avant tout à préserver leur propre intérêt aujourd'hui. Hein, donc au départ, ils étaient dans l'opposition. Aujourd'hui, hein, début 2014, de moins en moins. Les Kurdes cherchent aussi à préserver leur intérêt dans le nord.
Voilà, les Alaouites,
bien sûr, en nombre beaucoup plus important. En nombre beaucoup plus important que les Druzes. Et les Alaouites, eux, ils savent bien effectivement que si les sunnites, du moins ceux qui sont sur le terrain en armes, prennent le pouvoir, c'en est fini d'eux. Ça, les choses sont assez claires. Et, donc voilà, on a une situation assez inextricable en l'état. Les pourparlers à Genève vont prendre beaucoup de temps. On l'a dit la semaine dernière, tout l'intérêt du régime Bachar al-Assad, c'est qu'il dure le plus longtemps possible, et que sur le terrain, elle pousse en avant donc son avantage militaire, parce que pour l'instant, on en est là, c'est-à-dire l'avantage est du côté du régime de Bachar al-Assad.
Ceci nous renvoie à la grande obsession des Bush, périphistes, qui voulaient construire sous leur domination le grand Moyen-Orient, et en détruisant tout ce qui pouvait représenter des puissances d'opposition dans la région. Et on a l'impression qu'Obama, finalement, n'a pas démenti cette politique. Peut-être il l'adoucit pour donner meilleure impression, mais en fait, il laisse aller de telle manière que ce grand projet américain, impérialiste américain, de grand Moyen-Orient se poursuit par le démantèlement de tout ce qui se passe dans la région.
Oui, et la question à se poser, c'est est-ce que la politique des États-Unis concernant sa politique étrangère est faite à la Maison-Blanche ou est-ce qu'elle est faite dans d'autres officines? On voit bien avec la continuité justement entre le gouvernement Bush et le gouvernement Obama concernant la politique étrangère américaine. Donc celle-ci, elle se veut beaucoup plus soft, hein, mais de fait, elle est aussi dure. Il n'y a qu'à parler des assassinats ciblés des Américains par leurs drones, hein, qui continuent.
Voilà, on change de sujet. Michel, tu voulais aborder, hein?
Pour revenir un peu aussi à l'Ukraine. Hein,
oui, on a l'Ukraine aussi.
Parce que ça dure déjà 3 mois, hein, plus de 3 mois, qu'est-ce que je dis?
2 mois, non?
2 mois, oui, pardon. C'est moi qui anticipe. Donc depuis fin novembre.
On y sera peut-être encore dans un mois.
Mais il y a des chances. Du moins, tant que. Enfin, on sent bien là, il y a des échéances, hein, qui viennent se télescoper. D'un côté, la Russie qui est fortement préoccupée par ce qui se passe en Ukraine, hein, alors qu'officiellement, elle essaye de faire croire le contraire. Elle se tient en retrait, puisqu'il y a une échéance qui est primordiale pour eux, c'est l'organisation des Jeux Olympiques de Sotchi. On s'est vu, il est hors de question d'être sur deux fronts. D'un côté, les Jeux, la paix, etc., la bonne entente entre populations, et d'autre côté un soutien actif donc au gouvernement Yanukovych, alors que l'opposition là aussi pousse en avant un peu son avantage, puisqu'elle a réussi à avoir la démission donc du gouvernement d'Azarov, et aujourd'hui elle veut la démission de Yanukovych, et elle veut même que la communauté internationale, par communauté internationale, on entend l'Union européenne et les États-Unis, viennent superviser des élections qui devraient se tenir cette année même, hein, alors qu'elles sont prévues pour l'année prochaine. Donc pour l'instant, la situation, elle est là. Et les États-Unis et l'Union européenne ont pris la balle au bon, puisqu'ils avancent effectivement un plan d'action d'aide financière, donc en vue d'aider l'opposition. Voilà, les choses sont... Oui,
ils soumettent une aide considérable, paraît-il, à la mise en place d'un gouvernement réformé, quoi.
Oui,
et puis samedi...
De transition.
Transition, ouais. Il y avait Kerry et Ashton à Munich pour discuter de tout ça. Donc
tout à fait.
Ils mettent un peu la pression. Là,
ils mettent énormément la pression, et ils mettent d'autant plus la pression qu'ils savent effectivement que Poutine, il n'a de yeux que pour son Sotchi, et qu'il ne veut pas rentrer donc sur ce problème ukrainien dans les jours, les semaines qui vont venir. Donc on voit bien que le jeu des Russes s'est temporisé. On l'a vu aussi avec Yanukovych, hein, qui a prétexté d'un petit souci de santé pour se mettre un peu en retrait ces 4 derniers jours. Il est revenu sur la scène politique. Et on voit bien que les Américains et les Européens, hein, qui jouent quand même le jeu de l'oncle Sam, là, parce que on ne va pas parler de démocratie. Arrêtons de parler de démocratie pour l'affaire ukrainienne. C'est ni plus ni moins que de la géopolitique, c'est ni plus ni moins que les intérêts de cette sphère américano-européenne, de laquelle, qu'on le veuille ou non, on fait partie, et qui veut pousser plus en avant donc ses pions vers l'Est et obstruer donc la reconstitution de feu l'Union soviétique par d'autres moyens, puisque donc c'est cet accord que voulait mettre en place Poutine, hein, donc l'intégration de marchés intégrés entre l'Ukraine, Biélorussie et Kazakhstan, ça, de toute évidence, les États-Unis n'en veulent pas, et donc ils le font savoir. On nous a parlé effectivement de la population ukrainienne, enfin les médias, hein, dominants en France nous rabattent les oreilles avec cette histoire-là. Il y a seulement des chiffres, hein, qui devraient être comparés. Il y a eu malheureusement plus de manifestants ce week-end dans les rues françaises pour manifester pour d'autres comment dirais-je, revendications, que d'Ukrainiens dans toutes les rues d'Ukraine. Hein. On parle effectivement au plus fort, il y avait seulement 200 000, 300 000 personnes. Pour l'instant, on tourne à 20 000, 30 000. Et selon les derniers sondages, c'est toujours une majorité d'Ukrainiens qui désirent effectivement l'entrée dans cette union douanière avec la Russie. Donc, il faut remettre les choses un peu dans leur contexte. Hein. on va pas ici donc de tresser des lauriers à Yanukovych, hein, on est bien d'accord, c'est tout sauf un régime démocratique, mais il faut surtout pas nous faire croire qu'on fasse l'opposition, donc ce sont des gentillets, c'est un conglomérat de gens qui vont de l'extrême droite, hein, mais quand je dis extrême droite, c'est qui se revendiquent justement des anciennes factions pro-nazis ukrainiennes, à des nationalistes purs et durs, en passant par par des curés, des popes appartenant à l'Église catholique ukrainienne, hein, donc ce qu'on appelle les uniates chez les Russes. Donc on voit bien ce désir de faire rentrer coûte que coûte l'Ukraine dans la sphère d'influence américano-européenne et avant tout la détacher donc de ce qui était son berceau historique. Hein. L'Ukraine, nous l'oublions pas, hein, c'est historiquement ce qu'on appelle la vieille Russie, hein, la Russie première, de la faire donc sortir donc de cette alliance qui était historique avec la Russie. Donc je trouve, moi, que l'Union européenne, là, va beaucoup trop loin dans le sens où elle est vraiment prête, à semer la dissension, le trouble au point où demain, ce ne sera pas si étonnant que ça si on est une guerre civile ou un début de guerre civile dans ce pays-là. On en est vraiment pas loin si on continue à ce niveau-là. Mais de l'autre côté, il faut comprendre que on nous parle de répression du régime en place, on nous parle de régime. N'oublions pas qu'il a été élu, hein, là aussi. Il y a des régimes qu'on soutient qui ont été beaucoup moins bien élus que celui de Yanukovych, ne l'oublions pas non plus, hein, on ne dit rien. Ce régime-là ou ce gouvernement-là, chose étonnante, il a pour l'instant été très tolérant avec ces manifestants-là. Imaginez la même chose en France, à Paris, où un ensemble de manifestants, des bonnets rouges, en passant par l'extrême droite, et j'en passe, etc., prennent l'hôtel de ville de Paris, prennent la plupart des ministères. Comment réagirait effectivement l'État? On aurait droit à l'état d'urgence, hein, aussitôt. On a droit à un couvre-feu. Faut surtout pas croire que le contraire. Donc on est dans une position où on soutient sous couvert de soutenir la démocratie, donc une forme de sédition, parce que exclusivement et uniquement ça correspond donc aux intérêts géopolitiques des dominants et dans l'Union européenne et surtout aux États-Unis.
Robert, tu voulais ajouter un commentaire ?
Non, je crois que c'est assez.
T'as peut-être un autre sujet.
Bien vu, comme on dit, oui.
T'as peut-être un autre sujet dont t'as envie de parler en international encore.
Oui, on parlait effectivement du jeu de Kerry qui intervient un peu partout, qui est vraiment en pointe dans la stigmatisation des problèmes, on pourrait presque dire. D'ailleurs, c'est très surprenant. On attendait un autre Kerry que celui qu'on voit sur la scène internationale. Bon, il est à la fois. Il est intervenu à propos d'Israël pour dire que à la fois Netanyahou, eh bien, il est trop raide et ça pose des problèmes. Mais en même temps, il attaque surtout toute la campagne du boycott déclenché contre Israël et surtout les produits issus de la Cisjordanie. Et il dit que il a employé le mot de délégitimisation de d'Israël. Ça veut dire que de plus en plus de pays, de plus en plus de gens considèrent que effectivement Israël se met hors jeu. Alors il reproche aux gens d'avoir cette attitude. Tout en reconnaissant que Netanyahou ne fait rien pour que ça aille mieux.
Voilà.
Oui, c'est la quadrature du cercle, hein, c'est toute la difficulté pour Kerry, on l'a vu avec les autres émissaires hein, états-uniens, on fait semblant effectivement de faire avancer ce dossier-là, le dossier israélo-palestinien, mais de fait, on fait gagner du temps à Israël et la politique donc dans les territoires occupés donc de colonisation continue, on continue à bétonner, on continue à faire en sorte que demain, quand on parlera réellement effectivement d'un État palestinien, eh bien sur le papier, il sera impossible à mettre en place parce qu'il sera complètement morcelé. Et voilà. Donc tout ce but-là, en lieu de donner ce dossier-là aux Nations Unies, non, on l'a donné à un arbitre qui a un parti pris, mais qui est évident, qui est pro-israélien. Donc les États-Unis ont une politique pro-israélienne. Indéniable et on avalise donc voilà et donc d'où effectivement ces déclarations tu disais où il condamnait un début de boycott et pas oublier aussi qu'il fait pression, la diplomatie américaine fait pression sur les Pays-Bas qui sont un peu faire de lance dans sur ce dossier-là concernant le boycott d'Israël ou la Norvège et la Suède qui aussi ont à peu près la même politique.
Voilà, allez, pause musicale avant d'aborder la rubrique nationale. On va la faire en forme d'hommage à Kavanagh. Kavanagh qui est mort mercredi dernier. Qui ne connaissait pas Kavanagh, personne, mais quand même. Bon, il était né en 23, donc il avait bientôt 90 ans. Il avait, oui, même plus de 90 ans.
On peut faire aussi hommage à Pete Seeger.
Aussi, mais en même temps, non, parce que je peux passer qu'un morceau de musique à la fois. Kavanagh, on y viendra, on essaiera d'en parler à la fin du journal de Pete Seeger. J'avais bien sûr bien prévu aussi de parler de Pete Seeger. Donc, il avait fondé Harakiri, puis Harakiri Hebdo, puis Charlie, enfin, un homme d'esprit libre, libertaire, et qui jusqu'à toute sa vie a œuvré dans ce sens-là. Il y a au moins une chanson que Jean-Noël Pommet avait écrite en hommage. Il n'avait pas attendu qu'il meure, hein, il avait écrit cette chanson il y a quelques années. Et bon, je vous propose qu'on fasse notre pause musicale de cette manière-là.
Les bouquins de Kavanagh, y a du latin, y a du gaulois, y a de l'argot, y a du rital, y a tous les mots qui nous régalent. Dans les bouquins de Kavanagh, on prend le train sans faire un pas jusqu'aux confins de la Volga. Tous les chemins t'ouvrent les bras. Je cherche en vain ce qu'il n'y a pas dans les bouquins de Kavanagh. Y a des odeurs de rousse en rute. À des froquets, des franciscains, des galipettes et des culbutes, à décrocher les baldaquins. Dans les bouquins de Kavanagh, les mots communs n'existent pas, mais tes patins ne salissent pas, c'est du satin tous ces mots-là. Dans les bouquins de Kavanagh, c'est du rouquin plein ton cabas, c'est plein de copains qu'on connaît pas, c'est plein de lapins en peau de nana. Je cherche en vain ce qu'il n'y a pas dans les bouquins de Kavanagh. Y a des animaux plus humains que les humains qui vont aux zoos. Y a des animaux aussi beaux que les mannequins de chez Cardin. Dans les bouquins de Kavanagh, au prix du pain, au premier pas, t'as sous les mains l'Himalaya et les yeux pleins de Maria. Dans les bouquins de Kavanagh, jusqu'au matin, c'est la Nouba, c'est un volcan qu'on finit pas, une avalanche, un opéra. Je cherche en vain ce qu'il n'y a pas dans les bouquins de Kavanagh. Y a des fous rires en permission à enrager des régiments. Y a des amours en infraction au nez rougi des monuments. Dans tes bouquins, Maître François, tu tu changes en vain l'eau de Badoit. Non, rien ne manque à tes repas, tout comme au banquet de Cavanagh.
Cavanagh 2 et par Jean-Noël Pommet. Vous écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info du 3 février 2014. On arrive à la rubrique nationale avec un petit peu de social peut-être, avec le chantage qui est fait aux employés des chantiers de Saint-Nazaire, 2000 salariés, d'accepter une diminution des salaires pour obtenir, paraît-il, la commande d'un paquebot de 2 milliards d'euros. C'est l'arrêt de l'annualisation, c'est le gel des jours de réduction de temps de présence qu'on demande. Certains syndicats comme la CFDT déclarent signer dans la douleur. D'autres comme la CGT refusent de signer. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Et on va voir si un accord se dégage ou si, malgré les refus de certains syndicats de céder aux oukases du patronat, on va quand même construire le paquebot en question. Voilà, Maury Ducrot aussi, donc 5000 salariés, 2000 de gardés. Le combat a seulement permis d'obtenir une indemnisation de licenciement pour les 3000 qui seront licenciés, avec une augmentation de 50% par rapport à ce qui était proposé avant. Avec une opération assez discutable d'ailleurs, parce que l'actuel actionnaire qui veut faire le repreneur était celui qui avait acheté la société pour 246 000 euros il y a quelques années. Or, la loi interdit que des sociétés soient reprises par les anciens dirigeants. Autrement dit, ils achètent pour rien, ils liquident la société sans payer les dettes et ils repartent à zéro avec la nouvelle société. Mais il semble que dans le cas présent, Montebourg et d'autres sont tellement contents de voir une activité repartir qu'ils sont prêts à s'asseoir sur les règles qui empêchent une certaine forme de spéculation à la liquidation. Quoi. Voilà, Robert, tu avais d'autres infos peut-être dans le domaine ?
Oui, cette situation de blocage dans les conflits sociaux auxquels le gouvernement n'apporte pas de réponse globale fait penser que ce fameux virage dont on parle beaucoup depuis cette dernière conférence de Hollande sur le pacte qu'il a signé avec le MEDEF sur la responsabilité, en fait, ce virage, on pourrait même le situer, par exemple, avec deux événements importants. C'est lorsque le gouvernement a capitulé devant ArcelorMittal, et que là où effectivement il aurait dû faire apparaître effectivement une politique alternative basée aussi sur la prise en main de la situation économique et de créer de nouveaux rapports de force. Il l'a pas fait à l'époque. Et un autre fait remarquable, c'est le refus de mettre vraiment Unilever au pied du mur dans l'affaire Fralib, cette coopérative qui n'arrive pas à se constituer, tout simplement parce que eh bien là aussi le pouvoir d'État laisse Unilever manœuvrer en utilisant les tribunaux français d'ailleurs, peut-être demain internationaux, pour bloquer toute construction de cette coopérative Fralib. Donc c'est ce tournant, et ce tournant, enfin je veux dire, le tournant a été pris, on peut presque dire, dès le départ de l'arrivée de Hollande au pouvoir, notamment à travers ces affaires comme celle dont je le redis, d'ArcelorMittal, un tournant effectivement qu'a aussi Hérault a mis en forme, et que Montebourg suit comme un petit caniche tranquillement, avec quelques coups de gueule de temps en temps, mais avec rien à apporter sur le fond du débat politique.
Voilà, alors il y a les manifs. Quel dommage que Barbarin n'ait pas participé à la manif anti-IVG de samedi après-midi. Ils auraient été 20 ou 40 000 au lieu de 1500. puisque les moutons suivent le berger, c'est bien connu. Mais néanmoins, cette manif a eu du succès ici contre l'IVG, contre l'interdiction de l'IVG en Espagne. Elle en a eu beaucoup plus, bien sûr, en Espagne, où tous les gens qui s'étaient mobilisés il y a 15 ans pour obtenir cette autorisation d'avorter dans des conditions décentes ont dû redescendre à nouveau dans la rue, plus la nouvelle génération, bien sûr. Il y a eu aussi des manifs à Londres, un peu partout. Il faut toujours se battre sur des droits comme ça. On pense qu'ils peuvent être acquis, mais on se rend compte assez facilement qu'il suffit d'un changement de gouvernement à la tête, et puis voilà, on remet en cause des choses acquises, et en France, on n'est pas à l'abri de ça. Surtout quand on considère donc la manif Réac, celle du dimanche, donc à Paris, 80 000, 500 000, on ne sait pas, sans doute entre les deux, plus vers le bas, à Lyon aussi, 20 000, 40 000, disent les Cubéni. Une manif un peu bizarre, puisque même dans les gens qui étaient pour, il y en a qui ne sont pas venus. Poussé bien sûr par les partis comme l'UMP, le Front National, qui interviennent là-dedans en sous-main, mais pas directement, avec des clivages qui fait qu'un certain nombre d'élus n'ont pas voulu apparaître, peut-être dans la perspective des élections à venir, ils n'ont plus trop envie de se mouiller. Bref, ils peuvent en tous les cas ce soir clamer sur tous les tons, on a gagné, ces oiseaux, puisque le gouvernement leur prête le flanc en retirant le projet de loi famille qui était prévu, qui ne prévoyait rien d'ailleurs de ce contre quoi ils protestaient si gaillardement. Mais bon, dans un souci sans doute de calmer le jeu, on est prêt au niveau du PS à faire des concessions à ces groupes-là, pour arriver à ce qu'ils se calment un petit peu et qu'ils n'apparaissent plus. C'est ce qui étonne le plus, c'est que on ne sait plus bien qui est derrière, qu'il s'agisse des bonnets rouges, qu'il s'agisse de la manif de la semaine dernière, on est contre tout, et là, d'une composite, d'une nébuleuse faite d'une multitude de sous-groupes. Bien sûr, il y en a qu'on identifie, hein, les groupes d'extrême droite, les groupes de catholiques intégristes et tout, ça c'est facile de se douter qu'ils étaient là. Ils étaient plus, je pense, là pour manifester une opposition au gouvernement de gauche en France, si peu de gauche, et pourtant ça suffit à les énerver, que pour des revendications bien clairement exprimées sur des choses où il y aurait effectivement à revendiquer pour faire évoluer les choses autrement qu'elles ne sont, quoi. Voilà, peut-être mes camarades ont aussi quelques réflexions sur le sujet. Robert ?
Non, je crois que... effectivement, il y a une situation qui va s'élargir effectivement à l'Europe. Je crois que il y a des types de batailles, par exemple, sur le mariage pour tous. Eh bien, beaucoup de pays européens s'étonnent encore qu'en France on en soit à batailler là-dessus. Par contre, sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, qui effectivement est amalgamée avec tout le reste, le soutien qu'apporte cette droite réactionnaire au gouvernement espagnol, est dénoncé un peu partout et fait tache d'huile en Europe.
Ouais. On soulignera aussi l'instrumentalisation des enfants dans cette affaire, parce que ces gens-là, en général, sont les premiers à dénoncer que la gauche utilise les enfants et autres. Et là, on les a vus amener leurs enfants par milliers et par dizaines de milliers dans des manifs qui ne les concernent pas, puisque à 5, 6 ou 7 ans, on n'a rien à foutre de la PMA ou de la GPA. Et pourtant, on a traîné les gosses dans ce genre de manifs. Ça leur laissera des souvenirs et des bien mauvais. Ma foi, espérons qu'ils sauront prendre la mesure de ce qui s'est passé ce jour-là, mais ce n'est pas gagné, puisque c'est justement le rôle de les influencer dès ce moment-là, dans le sens qu'ils veulent mettre en avant. Alors, autre sujet peut-être
Oui, l'opportunité, ou l'opportunisme, c'est pas ce qu'il faut dire, qu'a su saisir Duflot, la ministre du Logement, profitant de ce rappel historique, il y a 60 ans, l'appel de l'abbé Pierre pour que l'on loge les Français, et puis pas seulement les Français, mais bon, tout le monde pensait d'abord aux Français, ce qui n'est pas forcément toujours incompatible. Et Duflot, donc, eh bien, est allé de quelques déclarations prometteuses, c'est-à-dire vues comme des promesses. Elle a dit qu'elle allait s'attaquer. Alors là, le chiffre m'a surpris. Elle a dit qu'elle allait résorber les 400 bidonvilles qui existent en France. 400 bidonvilles. Alors, je ne sais pas, ça a été repris par la presse. 400 bidonvilles, bon, peut-être qu'elle s'est expliquée là-dessus. Bon, on peut effectivement des situations d'insalubrité de logement ou de non-logement même, on peut peut-être en trouver 400. Bon, l'idée de bidonville, il y a le mot ville dedans, donc on avait plutôt un souvenir, certes désastreux, mais du bidonville. Bon, tant mieux, 400 bidonvilles qu'elle s'est engagée à résorber. Ça concernerait à peu près 15 000 personnes, donc si on fait la division, ça fait pas beaucoup de gens par bidonville, mais le problème, c'est effectivement, c'est pas de faire...
En fait, bidonville, c'est plutôt des campements de quelques baraquements construits à Lyon. Oui. On en a un certain nombre, on va dire, comme ça.
Oui, bah c'est ce qu'elle appelle des bidonvilles, bon d'accord. Oui. Mais pourquoi pas, hein. Et puis, deuxième promesse qu'elle a faite, c'est effectivement de secouer un peu les préfets pour que vraiment la loi Dalo, hein, c'est des droits au logement, soit réellement appliquée, parce que bon, les préfets traînent un peu les pieds dans cette affaire-là, alors que normalement les textes sont clairs entre à la fois le rôle de l'autorité d'État, c'est-à-dire les préfets, la justice et éventuellement l'usage de la police quand les réquisitions ne sont pas faites. Alors, attendons Duflot qui va peut-être effectivement faire des choses, si elle pense qu'elle le peut.
Voilà, dans le social, on a oublié de signaler, mais enfin, que les dentistes pleuraient beaucoup. C'est pas qu'ils ont mal aux dents, c'est qu'ils ont mal à leur portefeuille et ils se sont mis en grève aujourd'hui et même pour la semaine administrative pour obtenir de la sécu des augmentations substantielles. Il y a aussi les inspecteurs et contrôleurs du travail qui subissent une réforme de sapin qui ne leur plaît pas beaucoup, une réorganisation et qui entraînent leurs protestations et une mise en grève. En gros, on veut leur attribuer un rôle que le pénal jouait avant, de coller eux-mêmes les amendes. On absorbe un cinquième des contrôleurs pour en faire des inspecteurs. Ils se plaignent, ça devrait plutôt améliorer leur sort, mais ils pensent que c'est une manière de réduire les effectifs, quoi. Bref, ils ont un certain nombre de revendications qui sont soutenues par la CGT.
Oui, on va dire qu'elle est tout à fait légitime, cette revendication. Alors que celle des dentistes le paraît beaucoup moins, même elle ne l'est pas du tout. Il faut rappeler que la corporation des dentistes doit être en 3e ou 4e position parmi ceux qui gagnent le mieux leur vie. Après, avec les notaires, puis je ne sais plus qui, enfin bon, il y a deux, trois professions qui caracolent en tête, dont les dentistes.
Voilà, d'autres infos nationales ou locales?
Moi, j'avais, au chapitre des suicidés au travail, on sait que les éléments de coercition mis en place par le gouvernement et pas bon qui obtempère à l'ordre, on va dire, des multinationales internationales, donc, c'est-à-dire tout ce qui concerne compétitivité, rentabilité, sécurité, responsabilité, eh bien, ça fait des suicides un peu partout. Alors, ce week-end, on en signale deux, cette fin de semaine dernière. Un ouvrier à l'usinage, à Renault-Cléon, et puis un cadre supérieur de colis-poste, parce que la Poste fait sa énième réforme interne, et donc avec le retour de colis-poste dans une structure nouvelle, bon, y a un cadre supérieur qui n'a pas supporté ça, et il a préféré disparaître de ce monde.
Voilà, d'autres infos, Michel, tu avais des choses à nous dire ?
Non, j'ai rien.
Si je te dis que Eva Joly proteste et appelle les membres de ELV à quitter le gouvernement, ça va pas te faire beaucoup de peine. Donc les membres, c'est essentiellement Cécile Duflot. On voit qu'elle continue à faire le trublion dans le cadre des Verts, quoi. Et puis, bah, je vais vous donner quelques infos culturelles, si on est un petit peu au bout de nos infos locales.
Je vais être une dernière information politique, ouais. Un petit tour du côté de la préparation des municipales et des européennes. Au niveau des municipales, eh bien, il y avait de grandes retrouvailles, PC-PG, Parti communiste, Parti de gauche, à Calais, où la candidature Front de Gauche avec le député européen Hénin, il s'appelle Hénin, Parti communiste, faisait un meeting avec au premier rang Jean-Luc Mélenchon. Et donc, on l'avait déjà signalé qu'il y avait une amélioration des rapports entre les deux organisations politiques, ce dont... tous les gens du Front de Gauche, qu'ils soient encartés ou pas, ne se plaindront pas. Et puis il y avait aussi cette réunion des secrétaires du PS à Paris, secrétaires départementaux, et ils se sont vus intimer l'ordre de décliner dans ces campagnes, dans cette campagne des municipales, de décliner un peu le bilan de Hollande et de Hérault. Et bon, il paraît que ça n'a pas fait sourire beaucoup de gens.
Allez, Robert, fais-nous une petite apologie de Pete Seeger, là, puisque je t'ai senti bien parti tout à l'heure.
Oui, mais je ne l'ai pas en tête, là. Je l'ai pas en tête. Hein.
Bon, moi, lui aussi est mort à 90 ans. C'est un homme qui est peu connu aujourd'hui de la jeunesse, évidemment, mais il avait été avec Woody Guthrie, entre autres. Il avait pas mal œuvré dans le cadre de la chanson militante du folk song américain. On lui doit un certain nombre de succès, comme cette chanson-là qui a aussi été traduite en français, « Nous ne bougerons pas ». Et il s'est engagé maintes fois pour la guerre du Vietnam, bien sûr. Il a été poursuivi sous le McCarthyisme comme communiste. Il a même été condamné à de la prison, mais il a, heureusement pour lui, il ne l'a pas fait, quoi. Et jusqu'à ces derniers temps, il a continué à toujours à prendre des positions sans ambiguïté du côté des plus démunis et des causes l'écologie, entre autres, qui lui semblait judicieuse, quoi. Il a été un petit peu, on va dire, le tuteur de Bob Dylan. Ça fait partie des gens sans qui Dylan n'aurait peut-être pas été ce qu'il a été s'il n'y avait pas eu des gens comme Pete Seeger avant. Il a laissé pas mal d'enregistrements qu'on peut toujours découvrir. On l'écoute donc en fond sonore pour terminer ce journal. Je vous dirais aussi que mercredi 5 se tient, pour les gens que ça intéresse, une réunion de l'ANACRE du Rhône, à la mairie du 8e, salle des mariages. C'est pas le mariage de l'ANACRE, hein. Mais il faut, pour y assister, se réserver au 06 87 88 86 91. Et puis à l'Astrée, vendredi à 20h30, projection du film de Paradjianov, Sayat Nova. Et demain, mardi, l'Arménie au cœur, lecture musicale toujours à l'Astrée, par Françoise Mémon avec musicien Sveltana Eganyan. Je vous en remets un petit coup pour terminer ce journal qui sera rediffusé demain matin à 8h, bien sûr. Vous pourrez également le réentendre sur Internet. Bonsoir.